Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à chacun, à chacune, encore une fois, et en particulier si vous êtes là pour la première fois dans ce lieu de culte. D'ailleurs, un jour, j'ai assisté à l'inauguration d'un lieu de culte, il y a peut-être 10 ans de cela. Alors, ça a été organisé sous forme de soirée de louanges, et dans mes souvenirs, nous étions assez nombreux. Et au moment d'entrer dans la salle, la personne qui était à l'accueil nous a juste dit: Amusez-vous bien. J'ai trouvé que ce n'était pas la phrase la plus appropriée pour ce que nous allions vivre. Si vous allez dans un parc d'attractions, alors oui, on peut vous dire amusez-vous bien. Mais là, nous venions pour adorer Dieu, et non pour nous divertir ou pour chercher une ambiance amusante. Comment Dieu veut-il être adoré? Quel culte convient-il de lui rendre? Comment les êtres humains doivent-ils se comporter devant Dieu? Eh bien, le texte d'aujourd'hui, dans le prolongement de notre série sur l'Ecclésiaste, répond à toutes ces questions. Et je vous invite à suivre la lecture de la parole de Dieu en Ecclésiaste chapitre 4, à partir du verset 17. Veille bien sur tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu. Il est préférable de s'y rendre pour écouter plutôt que pour offrir un sacrifice à la manière des insensés qui n'ont même pas conscience de faire le mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement une parole en présence de Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes propos soient donc peu nombreux. En effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, de même un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Il vaut mieux ne pas faire de vœux qu'en faire et ne pas s'en acquitter. Ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute et ne va pas dire au représentant de Dieu: Mon vœu était une erreur. Pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? C'est pourquoi, là où il y a abondance de rêves et multiplication de paroles légères, crains plutôt Dieu. Le Qohélète, qui passe en revue différents domaines de l'existence humaine, en vient à la relation à Dieu, au domaine de la piété. Alors jusque-là, le bilan que le maître de sagesse tire de ses observations est facile à résumer. Tout est vanité. Tout sur cette terre est marqué par la frustration, par la déception, par la fragilité. Aucun domaine de notre existence n'y échappe, pas même la piété. Et dans notre texte, le Qohélète nous montre que certains se comportent comme des insensés devant Dieu. Leurs gestes, leurs paroles devant Dieu paraissent bien futiles. Et lorsque nous comparons notre texte avec ce qui précède, eh bien nous remarquons que le ton change. Est-ce que vous avez remarqué cela? Ce n'est pas écrit comme d'habitude. Ce n'est pas écrit comme ce qui précède. Jusque-là, le Qohélète nous faisait seulement part de son expérience, de ses observations. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai constaté sous le soleil. Voilà comment l'homme mène sa vie. Y a-t-il un avantage à ce qu'il se donne tant de mal, tant de peine? Mais ici, vous le remarquez, il s'adresse directement à ses destinataires. Veille bien sur tes pas. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Ce que tu as promis, tiens-le. Voilà ce qui devrait aussi attirer notre attention ce matin. C'est comme si le Qohélète nous prenait à part pour nous donner ses conseils. Nous pourrions résumer son message ainsi: Quand tu rends un culte à Dieu, quand tu lui parles, crains-le. Quand tu rends un culte à Dieu, quand tu lui parles, crains-le. Permettez-moi de vous poser directement la question: craignez-vous Dieu? À 3 reprises, le Qohélète oppose le comportement juste que nous devrions avoir devant Dieu d'un côté et celui des insensés de l'autre. Et bien évidemment, notre texte va dans le sens d'adopter le comportement juste, sage, qu'il convient d'avoir devant Dieu. Et je vous propose de détailler ce comportement à partir de 4 impératifs. D'abord, premièrement, viens pour écouter. Les premiers mots de notre texte que vous voyez sous les yeux sont donnés comme un conseil ou un avertissement. Veille bien sur tes pas. Surveille ton intention lorsque tu viens adorer Dieu, lorsque tu viens lui rendre un culte. Et je crois qu'il est bon pour nous de nous poser régulièrement cette question. Pourquoi est-ce que je viens à l'église ? Pourquoi est-ce que je prends ce temps le dimanche matin pour participer au culte ? Et dans ce questionnement, nous ne cherchons pas seulement la cause, mais aussi la motivation, l'intention. Avec quelle intention es-tu venu ce matin ? Regardons la suite du verset 17. Il est préférable de s'y rendre au sanctuaire de Dieu pour écouter, plutôt que pour offrir un sacrifice à la manière des insensés qui n'ont même pas conscience de faire le mal. Ou dans une version plus littérale, comme dans la version Colombe, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne reconnaissent pas qu'ils font le mal. Nous avons notre première opposition. D'un côté, ce qu'il convient de faire, venir avec l'intention d'écouter, et nous allons préciser ce que cela signifie. Et de l'autre, le comportement des insensés qui offrent un sacrifice qui visiblement ne plaît pas à Dieu. Le Qohélète dit même qu'ils font le mal. Demandons-nous, qu'est-ce qu'un adorateur de l'époque viendrait faire à la maison de Dieu ? Bien sûr, il viendrait pour offrir des sacrifices. Mais avec quelle disposition de cœur ? Le Qohélète exhorte à venir pour écouter. Écouter Dieu, bien sûr, mais écouter également ceux que Dieu a mandatés pour enseigner son peuple, à savoir les prêtres à l'époque. Et quand tu vas à la maison de Dieu, dit le Qohélète, approche-toi pour écouter. Cela vaut mieux que d'imiter les insensés. Et dans les écrits de sagesse, que ce soit dans le livre de l'Ecclésiaste ou dans celui des Proverbes, l'insensé est avant tout celui qui ne se préoccupe pas de ce que Dieu veut ou de ce que Dieu pense. Et c'est pourquoi son attitude s'apparente à de la folie. L'insensé, c'est celui qui veut vivre comme il l'entend et qui n'est pas ouvert au conseil des autres. Et dans notre texte, les insensés offrent un sacrifice pensant que cela ferait plaisir à Dieu. Mais si notre portrait de l'insensé est correct, en fait, en réalité, il n'a aucun respect pour Dieu. Ce n'est qu'un geste extérieur, un geste religieux pour la forme, parce qu'il faut le faire. Parce que quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut offrir des sacrifices. Mais en réalité, l'insensé vit sa vie comme ça lui chante. Et il n'a même pas conscience, dit le Qohélète, qu'il est en train de faire le mal. Par moments, dans l'histoire du peuple d'Israël, Dieu a aussi repris son peuple de la même manière. Et voici par exemple ce que nous lisons chez le prophète Amos. Amos chapitre 5, versets 21 à 24. Et les mots sont assez durs, même très durs. Voici ce que dit Dieu. « Je déteste vos fêtes. Je les ai en dégoût. Je ne peux plus sentir vos rassemblements cultuels. Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas et je ne peux pas voir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice de communion. Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le bruit que font vos luttes. Mais que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent intarissable. » Ce que nous devons comprendre de ce texte que je viens de lire, c'est que Dieu ne peut accepter un culte rendu par des hommes qui ne sont pas droits, par des hommes qui ne tiennent pas compte de ce qu'il veut vraiment, à savoir la justice, l'obéissance dans leur vie. Et cela nous questionne nécessairement ce matin sur notre propre comportement. Est-ce que je viens au culte parce que je dois venir ? En sachant que ma vie n'est pas alignée sur ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est le moment d'examiner notre cœur, mais aussi notre vie quotidienne. Quelle place ai-je accordée à Dieu durant cette semaine ? Suis-je, comme on dit parfois, un chrétien du dimanche ? Semblable aux Israélites qui se rassemblent, qui chantent, mais qui ne pratiquent pas la justice dans leur vie. Les Israélites ont probablement oublié qui était au ciel, qui était le Dieu qui les avait libérés autrefois de l'esclavage de l'Égypte. Ne mérite-t-il pas plus de reconnaissance ? Offrir le sacrifice des insensés, c'est facile. Venir au culte, c'est facile. Tout le monde me voit et peut constater que je chante et que je suis bien présent à l'église. Mais tout le monde ne sait pas comment je mène ma vie le reste de la semaine. Mes amis, si nous pouvons tromper les hommes, nous ne trompons pas Dieu qui sait tout. Voilà pourquoi le Qohélète conseille « Viens pour écouter. » Viens avec des oreilles attentives. Viens avec l'intention sincère de te laisser instruire et d'obéir à Dieu. Tu ne viens pas pour écouter un cours. Tu ne viens pas pour écouter un discours comme celui d'un homme politique. Tu viens pour écouter Dieu par l'intermédiaire de ceux qui enseignent sa parole. Les prêtres devaient rappeler au peuple la loi de Dieu. Et nous, dimanche après dimanche, nous rappelons aussi ce que Dieu dit dans sa parole. Nous rappelons ce qui est juste à ses yeux. Et si tu viens rendre un culte à Dieu, viens avec la disposition d'écouter. Gardons-nous d'avoir le comportement des Israélites d'autrefois, ou des pharisiens que Jésus a repris sévèrement. Voici ce qu'il leur dit en Matthieu chapitre 23, verset 23. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous vous acquittez de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la compassion et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. » L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, n'est-ce pas ? Veille sur tes pas quand tu viens rendre un culte à Dieu. Veille sur tes intentions. Préfère l'écoute au culte formaliste, au culte rendu pour l'apparence. Parce que ce que Dieu attend de son peuple, c'est que son peuple écoute, que son peuple obéisse. Et après cette première mise en garde, le Qohélète poursuit avec un deuxième avertissement. Veille sur ta bouche. Je relis les versets 1 et 2. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement une parole en présence de Dieu. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes propos soient donc peu nombreux. En effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, de même, un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. Alors, il est un fait que nous avons sans doute tous expérimenté la prière mécanique. C'est la prière que nous formulons peut-être avant le repas ou avant de dormir. Nous récitons quasiment une prière par habitude et pas toujours en pensant à ce que nous disons. C'est purement mécanique. Vous la connaissez, cette prière mécanique ? Certains sourient, donc j'imagine que oui. Pourtant, le Qohélète avertit. Il ne doit pas en être ainsi devant le Dieu vivant. La précipitation aboutit souvent à des actes, à des paroles peu sages. Celui ou celle qui se précipite ne prend pas le temps de la réflexion. Le Qohélète appelle au contraire à la retenue. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Par exemple, pour prononcer une prière mécanique. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et en voici la raison. Car Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre. Dieu est au ciel, il règne, il est au-dessus de nous. Et nous ? Nous ne sommes que des créatures. Et nous sommes sur la terre. Telle est notre condition sous le soleil. Et Sylvain Romerowski commente à ce sujet. Et je le cite, le Qohélète parle de distance entre Dieu et les hommes, de distance dans le sens que nous ne pouvons pas mettre la main sur Dieu. Il est au ciel, nous sommes sur la terre. Nous ne pouvons pas mettre la main sur Dieu, le manipuler, le contraindre à accéder à nos désirs, nous servir de sa puissance comme si elle se trouvait à notre disposition, comme si la prière était une formule magique qui nous permettrait de la mettre en action. Dieu est au ciel. Il n'est pas à notre portée pour exaucer la moindre de nos demandes. Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. C'est un bon rappel, je trouve. Le conseil de sagesse est le suivant, que tes propos soient donc peu nombreux. Il vaut mieux une prière dite avec peu de mots, bien pesée, bien mesurée, qu'une prière à rallonge, avec des formules toutes faites. Jésus aussi a mis en garde contre les paroles à répétition. En Matthieu chapitre 6, versets 7 et 8, Jésus dit « Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles, à la manière des païens. » Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Si tu connais Dieu, tu sais qu'il n'a pas besoin de tas de paroles de ta part. Il veut plutôt que tu pries avec la confiance qu'il connaît ce dont tu as besoin. Veille sur ta bouche. Ne te précipite pas en paroles. Ne multiplie pas tes paroles devant Dieu. Et le Qohélète fait une comparaison au verset 2. Nos rêves, tout le monde rêve, hein, nos rêves proviennent de ce que nous vivons en journée ou de ce qui nous préoccupe. Une foule de pensées liées à nos activités engendre des rêves. Et de la même manière, une foule de paroles engendre des propos inconsidérés. Littéralement, une foule de paroles engendre la voix de l'insensé. C'est là que nous retrouvons l'attitude des insensés, qui prononcent des paroles légères devant Dieu. Ils parlent tellement qu'ils finissent par dire des paroles qu'ils ne pensent plus devant Dieu. Et là encore, le Seigneur a déjà repris son peuple sur ce point. On lit en Ésaïe chapitre 29, verset 13, « Le Seigneur dit encore, « Ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Et il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres. Car au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées. » Texte que Jésus reprendra pour dénoncer l'hypocrisie des chefs religieux de son temps. Peut-on vraiment imaginer que notre Dieu qui est au ciel ne se contente que de paroles ? En fait, à cause de Dieu, nous devrions veiller sur notre bouche et savoir prononcer peu de paroles. Un jour, avec une sœur en Christ, j'ai eu une conversation à propos de la répétition des paroles dans nos chants. J'ai déjà entendu ailleurs des refrains répétés sans cesse, peut-être une dizaine de fois. Et je doute qu'à un moment donné, on pense encore à ce qu'on chante, au bout de la dixième fois. Et dans cette conversation avec cette sœur, j'ai simplement évoqué que j'étais de moins en moins à l'aise avec le fait de répéter sans cesse les mêmes mots, jusqu'à ce que ça n'ait plus de sens. Je crois d'ailleurs que la musique joue un rôle et qu'elle nous entraîne dans cette répétition. Et je veux m'adresser en particulier aux leaders de louanges qui choisissent des chants. Lorsque vous conduisez l'assemblée à répéter un refrain ou une phrase, que ce ne soit pas d'abord pour des raisons esthétiques et musicales, mais que ce soit toujours réfléchi. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je fais répéter ce chant ? Pourquoi est-ce que je fais répéter cette partie du chant ? Ou encore, pourquoi trois fois plutôt que deux ? Et voici une différence que je note dans la composition des chants. Les cantiques d'autrefois comportaient plusieurs couplets avec un refrain. Alors que certaines compositions contemporaines privilégient peu de couplets, mais un refrain et un pont qui peuvent être répétés inlassablement. Et je trouve que cela mérite réflexion. Méditons, par rapport à ce que je viens de dire, méditons sur ce que dit le Qohélète dans notre texte, que tes propos soient donc peu nombreux. Dans la continuité de son exhortation, le Kohélète évoque un cas particulier dans les paroles que nous prononçons devant Dieu. Et j'aimerais en venir à ce troisième impératif. Accomplis ton vœu. Avez-vous déjà fait un vœu à Dieu ? Du type, si tu fais ceci pour moi, je ferai cela pour toi. Il nous est arrivé, je pense, de prononcer au moins des engagements. On s'est engagé devant Dieu. Je m'engage à te suivre, quoi qu'il arrive. Et certains chants ont aussi des paroles qui nous engagent. Par exemple, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Si nous chantons cela, il faut s'y tenir, n'est-ce pas ? Sommes-nous des hommes et des femmes de parole devant Dieu ? Et voici ce que le Kohélète nous exhorte, verset 3. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Il vaut mieux ne pas faire de vœux qu'en faire et ne pas s'en acquitter. Et nous rencontrons notamment dans l'Ancien Testament des hommes et des femmes qui ont prononcé des vœux devant Dieu. Et j'aimerais mentionner deux exemples. D'abord l'histoire d'Anne. Anne, la mère de Samuel. Cette femme était stérile. Dieu l'avait rendue stérile. Et elle en était malheureuse. Et là aussi, Anne prononce un vœu. « Éternel, dit-elle, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. » Et la suite de l'histoire nous montre qu'elle tiendra parole. Effectivement, Dieu lui donnera bien un fils, et ce fils restera à son service pour toujours, loin de sa mère. Deuxième exemple, et c'est un exemple aussi tristement célèbre, la triste histoire de Jephté. Jephté qui était un des juges d'Israël. Jephté qui a prononcé un vœu qu'il va finir par regretter. Voici ce qu'il dit. « Si vraiment, il s'adresse à Dieu, si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, je te consacrerai et je t'offrirai en holocauste la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre, quand je reviendrai en vainqueur de la bataille contre les Ammonites. » Malheureusement, après sa victoire sur les Ammonites, Jephté voit celle qui sort de sa maison pour venir à sa rencontre, à savoir sa fille unique. Et là aussi, il tiendra parole, mais à quel prix ? Ces exemples concernent des personnes qui ont respecté Dieu au point d'accomplir leurs vœux. Des personnes qui n'ont pas pris à la légère les paroles prononcées devant Dieu, malgré ce que cela pouvait en coûter. La tentation aurait été grande, par exemple, de ne pas faire ce qui avait été promis devant Dieu. Par exemple, dans le cas de Jephté, comment vouloir sacrifier sa fille ? Ou encore Anne, comment délaisser son enfant, l'abandonner à Dieu, sans pouvoir s'en occuper ? Mais une telle attitude aurait été insensée. Et les insensés, dit le Kohélète, déplaisent à Dieu. Le Kohélète ne fait pas de détour quand il aborde ce sujet des vœux. Si nous avons fait un vœu à Dieu, nous n'avons pas d'autre choix que de l'accomplir. Ne faisons pas des promesses à Dieu que nous savons que nous ne tiendrons pas. Regardez le verset 4. Il vaut mieux ne pas faire de vœux qu'en faire et ne pas s'en acquitter. Et c'est dire tout le sérieux de ce que nous disons à Dieu. Aucune parole prononcée devant Dieu ne devrait être légère. Et cela est si important, si engageant, que manquer à sa parole, manquer d'accomplir son vœu, c'est pécher contre Dieu. Et c'est ce que nous lisons au verset 5. Ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute et ne va pas dire au représentant de Dieu « Mon vœu était une erreur. Pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises ?» Faire un vœu à Dieu n'est donc pas anodin. On ne joue pas avec Dieu. Et si tu penses à cet instant, à une promesse que tu avais faite à Dieu, peut-être il y a un moment, mais que tu n'as pas encore accompli, il est peut-être temps de songer à l'accomplir. Et si ce n'est pas réalisable tout de suite, ne tarde pas. Ne laisse pas ta promesse aux oubliettes. Dieu n'oublie pas. Mais en fait, pour éviter de faire le mal, il vaut mieux ne pas faire de vœux du tout. Écoutez ce que Jésus enseigne à ce sujet. Matthieu chapitre 5, verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne rompras pas ton serment. Ce que tu as promis par serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. » Eh bien moi, je vous dis, de ne pas faire de serment du tout. Et puis un peu plus loin, il dit, « Dites simplement oui si c'est oui, non si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. » Devant Dieu, ne parlons pas précipitamment. Nos paroles ont du poids, de l'importance. Autant quand nous parlons aux hommes, mais d'autant plus quand nous nous adressons à Dieu, quand nous nous engageons devant lui. Comment les êtres humains doivent-ils se comporter devant Dieu? Eh bien, nous avons déjà vu trois impératifs. Viens pour écouter. Veille sur ta bouche. Accomplis ton vœu, ou on pourrait ajouter, n'en fais pas. Et avez-vous trouvé quel était le quatrième impératif dans notre texte? Crains Dieu, verset 6. C'est pourquoi là où il y a abondance de rêves et multiplication de paroles légères, crains plutôt Dieu. Tout est résumé dans cet impératif. Crains Dieu. Crains Dieu, cela t'évitera de prononcer des paroles légères, des promesses que tu ne tiendrais pas. Crains Dieu au point de vouloir l'écouter et lui obéir. Crains Dieu de telle sorte que tes propos soient peu nombreux. Crains Dieu et fais ce que tu as promis devant lui. La crainte de Dieu est la juste attitude du croyant qui vit sous le soleil. Craindre Dieu, cela signifie le respecter de la manière la plus respectueuse possible. Dieu n'est pas n'importe qui. Il mérite que nous le prenions au sérieux. Et comment sait-on que quelqu'un craint Dieu? En voyant sa façon de vivre. Est-ce que cette personne tient compte des commandements de Dieu? Est-ce que son comportement s'aligne sur ce que Dieu attend d'elle? En fait, je voudrais dire, si quelqu'un craint Dieu, eh bien cela se voit. Ce matin, c'est l'attitude que le Seigneur nous rappelle d'avoir devant lui. Et par Jésus-Christ qui est mort pour mes péchés et qui est ressuscité, j'ai accès à une relation de proximité avec Dieu. Mais proximité ne veut pas dire pour autant que je dois moins le craindre. La crainte de Dieu me conduit à la mesure, à la retenue, à ne pas me perdre dans l'abondance des rêves, comme c'est écrit ici. D'ailleurs, ce n'est pas si facile à comprendre. Qu'est-ce que le Qohélète veut dire ici quand il parle des rêves? Je suivrai pour cela l'interprétation de Sylvain Romerowski qui dit que finalement, il faut comprendre ici les rêves au sens des révélations de Dieu. Et voici une tendance qui s'apparente à des paroles légères. Dieu m'a dit que. Voilà des paroles légères. Pourquoi légères? Parce que il faut le reconnaître, combien de ces paroles ne sont que en réalité de la fumée. Paroles légères. Dieu m'a dit que. Dieu m'a révélé que. Et certaines personnes ne fonctionnent que sur ce mode-là, comme si Dieu ne cessait de leur communiquer des révélations. Mais le Qohélète prévient, là où il y a abondance de rêves, là où il y a multiplication de paroles légères, crains plutôt Dieu. Crains plutôt Dieu en obéissant à ce que Dieu te dit déjà dans sa parole, dans cette révélation qui est entre nos mains. Par exemple, aussi dans ce que nous sommes en train de voir. Crains Dieu en obéissant à ce qu'il est en train de te dire ce matin, plutôt que d'attendre ce genre de révélation. Ce matin, le Qohélète nous enseigne à vivre avec sagesse notre relation avec Dieu. Par crainte de Dieu, viens pour l'écouter, disposé à lui obéir, à vivre d'une manière qui lui est agréable. Par crainte de Dieu, ne te précipite pas dans tes paroles, pèse tes mots, que que tes propos soient peu nombreux. Par crainte de Dieu, accomplis ce que tu as promis à Dieu. Que tes paroles ne soient pas légères. Pour vivre ainsi, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et au milieu de notre condition misérable et frustrante, qu'est la condition humaine, nous avons besoin de nous souvenir que Dieu nous a fait grâce. Nous avons besoin de nous souvenir qu'il a eu compassion de nous qui sommes pécheurs. Qu'il a tout fait pour que notre vie change, pour que nous ne vivions plus à la manière des insensés qui ne connaissent pas Dieu, mais à la manière des sages qui savent que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Dans sa grâce, Dieu a tout fait par Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous, pour que nous soyons réconciliés avec lui. Nous avons besoin de nous souvenir de la grâce de Dieu, de sa bonté. Et ainsi l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome, Romains chapitre 12, versets 1 à 2, « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Frères et sœurs, c'est en pensant à la bonté de Dieu pour nous, à sa grâce envers nous, que d'autant plus on veut lui offrir un culte qui lui soit agréable, tel qu'il nous le demande, dans la crainte et la confiance. Alors qu'il en soit ainsi dans notre vie tout entière, et que toute la gloire en revienne à Dieu seul. Amen. Je voudrais vous laisser un temps pour avoir l'occasion de répondre à Dieu sur là où il vous a interpellé précisément. Sur un point ou sur un autre. Que nous puissions prendre ce temps pour prier et pour répondre à notre Dieu. Notre Dieu et notre Père, tu nous enseignes dans ta parole que la juste attitude à avoir devant toi, c'est de te craindre. Et ce matin, nous voulons encore apprendre de toi, nous laisser instruire. Oui, veuille nous apprendre encore, jour après jour, à te craindre, à te respecter, à tel point que nous n'oserions pas nous aventurer dans des propos légers devant toi, à tel point que nous ne viendrons pas au culte juste pour la forme, mais que nous serions disposés au contraire à t'écouter. Parce que quand tu parles, alors oui, cela nous donne la vie, cela nous rafraîchit, cela nous montre aussi précisément là où nous avons besoin de corriger ce qu'il y a à corriger. Avec ton aide. Oui, nous demandons ton aide, Seigneur, pour pouvoir appliquer tout ce que nous avons lu ce matin dans ce texte. Pour pouvoir te craindre comme tu nous le demandes. Parce que tel est le culte que nous devons te rendre. En considérant ta grandeur. En considérant ta grâce et ta bonté aussi à notre égard. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, il est temps de pouvoir nous repentir. Il est temps encore de pouvoir rectifier notre marche qui n'était peut-être pas juste devant toi. Et merci d'être là et de nous permettre de comprendre, encore une fois, ce que tu attends des hommes, toi qui es au ciel et nous qui sommes sur la terre. Mais encore une fois, nous te le demandons, apprends-nous à te craindre. Au nom de Jésus. Amen.